Enfin, le concept d'assistance universelle inconditionnelle peut aider à résoudre deux problèmes qui n'ont cessé de surgir tout au long de ces pages. Le premier est celui de la dynamique sadomasochiste qui s'installe dans n'importe quelle relation de travail hiérarchisée et qui s'accentue encore quand tout le monde est conscient de faire un boulot inutile. C'est une source de souffrance permanente pour des millions de travailleurs. Rappelez-vous le concept de sadomasochisme au quotidien de Lynn Chancer. Alors que le jeu BDSM de la vraie vie comporte un mot magique par lequel il est possible d'y mettre fin, les gens normaux prisonniers de cette dynamique, eux, n'ont jamais d'issue aussi simple à leur portée. On ne peut pas dire « orange à son boss ». À mes yeux, cette analyse fondamentale pourrait être la base d'une théorie de la libération sociale. J'aime à imaginer que c'est la direction que prenait le philosophe français Michel Foucault avant sa mort tragique en 1984. Je n'ai jamais rencontré Foucault, mais les personnes qui l'ont bien connu ont dit avoir été témoins d'une transformation remarquable de sa personnalité à la suite de sa découverte de la culture BDSM. Lui, qui passait pour quelqu'un d'assez méfiant et froid, est subitement devenu beaucoup plus chaleureux, ouvert et affable. Cette évolution s'est aussi traduite sur le plan des idées, mais il n'a malheureusement pas eu le temps de la mener à son terme. Foucault est surtout célèbre pour sa théorie du pouvoir. Ce dernier, qu'il a un jour défini comme le simple fait d'agir sur les actions des autres, irriguait selon lui l'ensemble des rapports humains au point de constituer la substance même du caractère social de l'homme. D'où ce paradoxe étrange. Alors que tous ses écrits semblaient souligner son positionnement foncièrement anti-autoritariste, sa définition même du pouvoir suggérait que la vie sociale serait impossible en son absence. À la fin de sa carrière, il a paru vouloir tenter de résoudre ce dilemme en introduisant une distinction entre pouvoir et domination. Le premier, affirmait-il, se résume à des jeux stratégiques. Tout le monde met en œuvre des jeux de pouvoir en permanence. Non seulement on ne peut guère s'en empêcher, mais il n'y a rien de répréhensible à cela. C'est ce qu'il explique dans sa toute dernière interview. Le pouvoir n'est pas le mal. Le pouvoir, c'est des jeux stratégiques. On sait bien que le pouvoir n'est pas le mal. Prenez par exemple les relations sexuelles ou amoureuses. Exercer du pouvoir sur l'autre, dans une espèce de jeu stratégique ouvert, où les choses pourront se renverser, ce n'est pas le mal. Cela fait partie de l'amour, de la passion, du plaisir sexuel. Il me semble qu'il faut distinguer les relations de pouvoir comme jeu stratégique entre des libertés, jeux stratégiques qui font que les uns essaient de déterminer la conduite des autres, et les états de domination, qui sont ce qu'on appelle d'ordinaire le pouvoir. Foucault n'est pas extrêmement clair sur ce qui permet de distinguer ces deux catégories, si ce n'est que, dans le cas de la domination, les choses ne sont pas ouvertes et ne peuvent être renversées, c'est-à-dire que des relations de pouvoir normalement fluides deviennent rigides et figées. Il prend l'exemple de la manipulation réciproque du professeur et de l'élève, relation de pouvoir égale bien, opposé à la situation d'un étudiant soumis à l'arbitraire d'un professeur autoritaire, relation de domination égale mal. Il me semble qu'ici, Foucault tourne autour de quelque chose sans jamais vraiment mettre le doigt dessus. Et je crois qu'il s'agit d'une théorie de la libération sociale fondée sur le mot magique. Car c'est bien cela, la solution évidente. Le problème n'est pas que certains jeux soient truqués. Il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, aiment les jeux truqués. Le problème, c'est quand vous ne pouvez pas en sortir. La question devient donc, comment trouver un équivalent de la possibilité de dire « orange » à son boss, ou à un bureaucrate imbuvable, un directeur pédagogique odieux, un petit ami violent ? Comment faire en sorte de ne créer que des jeux auxquels nous avons vraiment envie de participer parce que nous savons que nous pouvons en sortir à tout moment ? Dans la sphère économique, la réponse à cette question tombe sous le sens. Le sadisme gratuit des relations de travail est tout entier fondé sur le fait qu'une des parties ne peut sortir du jeu, par la démission, sans en subir les conséquences financières. La patronne d'Annie se garderait bien de la convoquer dans son bureau pour la énième fois au sujet d'un problème réglé depuis des mois si elle savait que celle-ci pouvait se barrer en claquant la porte, écœurée, tout en ayant l'assurance de conserver son revenu inchangé. En ce sens, le revenu de base donnerait bien aux travailleurs le pouvoir de dire « Orange » à leur boss. Nous touchons là à notre second thème. Dans un monde de revenus garantis, non seulement la supérieure d'Annie devrait commencer à la traiter avec un minimum de respect, mais on voit mal, en fait, comment des jobs aussi débiles que celui d'Annie pourraient subsister. On peut imaginer que quelqu'un, même sans être contraint de travailler pour survivre, ait envie d'embrasser une carrière d'assistant dentaire, ou de fabricant de jouets, ou d'ouvreur de cinéma, ou de capitaine de remorqueur, ou de contrôleur d'assainissement, voire, pourquoi pas, tout cela à la fois. Que cette même personne libérée de toute contrainte financière choisisse délibérément de passer ses journées à surligner des formulaires dans une boîte de gestion des frais médicaux, qui plus est dans un service où les employés ont interdiction de se parler, c'est quasiment inconcevable. Dans ce nouveau monde, Annie n'aurait aucune raison de quitter son job d'institutrice en maternelle, sauf si elle décidait que cela ne l'intéresse plus. Et les entreprises de gestion des frais médicaux, en admettant qu'elles existent toujours, seraient obligées de se débrouiller autrement pour faire surligner leur formulaire. Cela dit, il est peu probable que de telles compagnies fassent long feu dans un régime de revenu universel de base. Le besoin qu'on en a, si tant est qu'on puisse parler de besoin, tient uniquement à la nature kafkaïenne de cet étrange système de santé américain qu'une écrasante majorité de la population juge stupide et injuste et voudrait voir remplacé par des assurances ou des fournisseurs de soins publics. Si l'on en croit les explications d'Obama, cela ne s'est pas encore produit précisément parce que l'inefficacité de ce système permet de créer des jobs comme celui d'Annie. Au moins, grâce au revenu universel de base, des millions de personnes conscientes de cette aberration auront davantage de temps pour militer et tenter de faire bouger les choses, puisqu'elles ne passeront plus 8 heures par jour à surligner des formulaires, ou à se démener pour trouver un moyen de payer leurs factures si elles ont préféré choisir une carrière qui donne un sens à leur vie. Comme l'avait bien noté Orwell, une population occupée à travailler, même à des tâches complètement inutiles, n'a guère de temps pour quoi que ce soit d'autre. Et l'on ne peut s'empêcher de penser que cet aspect de la situation arrange fort ceux qui, à l'image d'Obama, défendent le maintien des jobs à la con. Au minimum, c'est une incitation supplémentaire pour ne rien y changer. Voilà qui me conduit à mon tout dernier point. En général, quand on propose d'instaurer la garantie universelle des moyens de subsistance indépendamment du travail fourni, on entend deux types d'objections. La première, c'est « Faites ça et vous verrez que personne ne voudra bosser ». Je crois qu'à ce stade, nous avons amplement prouvé que c'était faux. Nous pouvons donc écarter cet argument sans autre formalité. La seconde objection est plus sérieuse. Elle fait valoir que, même si la majorité des gens décident de travailler, ils choisiront en priorité des tâches qui ne satisfont que leur intérêt propre. Autrement dit, nos villes se rempliront de poètes minables, de mimes de rue soporifiques, d'hurluberlus versés dans les théories scientifiques fumeuses, et rien de ce qui doit être fait ne le sera. En réalité, le phénomène des jobs à la con met bien en évidence le ridicule d'une telle hypothèse. Certes, il est probable que dans une société libre, une fraction de la population se consacrera à des projets que tous les autres risquent de juger idiots ou futiles. Mais il est difficile d'imaginer qu'elle puisse dépasser de beaucoup les 10 ou 20%. Contentons-nous de rappeler la situation actuelle en quelques faits et chiffres. Dans les pays riches, pas moins de 37 à 40% des travailleurs estiment déjà que leur boulot ne rime à rien. Une bonne moitié de l'économie est faite d'activités à la con, ou bien d'activités qui n'ont d'autre raison d'être que de permettre aux premières d'exister. Et le comble, c'est que toutes ces occupations ne sont même pas particulièrement intéressantes. en laissant chacun décider par lui-même des bienfaits qu'il peut apporter à l'humanité, sans aucune restriction, comment serait-il possible d'aboutir à une répartition du travail plus désastreuse que celle d'aujourd'hui ? Voilà un puissant argument en faveur de la liberté humaine. Nous aimons tous parler de la liberté dans l'absolu, clamer que c'est la chose la plus importante pour laquelle on puisse se battre ou donner sa vie. Pourtant, nous nous demandons rarement ce que signifie réellement le fait d'être libre ou d'exercer sa liberté. Dans cet ouvrage, j'ai moins cherché à proposer des solutions politiques concrètes qu'à inviter à la réflexion et au débat sur cette question essentielle. À quoi pourrait ressembler une société authentiquement libre ?